R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour à tous, nous sommes ce soir sur R22, la radio des arts et du commun, et nous sommes ici au bâtiment à modeler, dans le cadre du diplôme universitaire Espace commun, qui est un diplôme qui rassemble un collectif d'apprenants qui travaille autour des lieux partagés et des questions qui se posent dans tous ces lieux. Je suis Julia, j'animerai cette émission de radio avec Elodie, Marc et Alice. Nous avons des invités que nous vous présenterons. Mais tout d'abord, on se demandait un petit peu qu'est-ce que c'est ce lieu et ce bâtiment à modeler. Et pour cela, je vais poser la question rapidement à Alex qui va nous dire un petit peu de quoi ça parle, ce bâtiment à modeler.
Ça marche, merci et bonjour tout le monde et du coup bienvenue au BAM, le bâtiment à modeler. Donc le BAM, c'est à la fois le nom du lieu dans lequel nous nous trouvons, également le lieu de l'association collégiale qui s'occupe de la coordination et de l'animation. Donc qui dit coordination dit travaux espace commun et travaux collectifs. Donc il y a une dizaine d'associations permanentes présentes ici qui font des choses aussi différentes que des arts plastiques, du théâtre. Il y a une maison d'édition, de la recherche, de l'accueil et de l'accompagnement de personnes exilées, un labo photo argentique, j'oublie toujours des choses, une agence de communication solidaire, voilà. Donc toutes ces personnes et ces structures font des choses différentes, mais ont pour lien commun de faire vivre cet espace et l'espace dans lequel on se trouve ici, le hall. On essaie de le faire vivre comme un espace public, c'est-à-dire une place où on peut se croiser, discuter, boire un café, se poser. Voilà. Donc au-delà des occupants permanents, on met aussi à disposition à prix libre pour des collectifs et des associations, principalement de jeunesse du quartier, ou des assos émergentes. Et enfin, on accompagne les projets d'habitants, donc comme le bar associatif avec mes camarades sur ma gauche qui sont en train de jouer à la belote de manière effrénée. Et puis aussi des douches solidaires pour les personnes qui en auraient besoin, de la distribution alimentaire, de la coiffure solidaire pour les femmes, j'en passe et des meilleurs. Et puis ces trois composantes, occupants permanents, occupants ponctuels et puis les projets d'habitants, se rassemblent une fois par mois, le mercredi à 11h, pour s'occuper du bâtiment, tout simplement. Voilà, j'ai été, c'est bon, pas trop long, pas trop court, super.
Merci de nous avoir effectivement décrit et rappelé que là, on n'est pas dans un studio de radio, mais on est bien sur une petite place du village, une agora, où je vais me rapprocher de nos invités. J'ai vos noms, mais je vais peut-être vous laisser vous présenter si vous le voulez bien. Donc, nous avons comme invité Rosène Andro, Funda Tokak, bonjour, et Guillaume
Negri.
Merci Guillaume, et du coup je vous laisse le micro pour que vous puissiez nous raconter qui vous êtes, sur quoi vous travaillez, votre lien avec ce lieu. Et ensuite nous vous poserons des questions et discuterons autour de certaines thématiques.
Du coup, ouais, je suis Guillaume Negri, je suis doctorant à l'école universitaire de recherche Creative Approach to Public Space à Rennes. C'est beaucoup, ça paraît génial. Je travaille notamment en sociologie de l'exil, donc sur la question de comment est-ce que les personnes qui ont traversé l'exil vivent en France et comment est-ce qu'elles vivent les différentes situations qui sont imposées par les politiques publiques. Et là, pour ma thèse depuis septembre, je travaille sur les pratiques artistiques des personnes exilées. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que des personnes qui traversent des crises comme l'exil, etc., pratiquent de l'art. Et juste vite fait, mon lien avec le lieu, j'ai commencé, je pense, avec d'ici ou d'ailleurs, Dida, en rencontrant des personnes exilées, en faisant des tea time, en allant jouer au Uno. Je suis aussi passé par Copescam, où j'ai bossé et je bosse avec eux sur de la recherche sur les jeunes, sur les personnes exilées. Et maintenant, je laisse la place à l'une de vous deux.
Bonjour à toutes et tous, je suis donc Rosane Andreau, je suis adjointe à la maire de Rennes en charge de la vie associative. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite de ce quelle est ma mission concrètement, mais très pragmatiquement, mon lien avec ce lieu, c'est d'abord que ce sont des locaux municipaux. C'est bien la ville de Rennes qui est propriétaire aujourd'hui de ces murs. Ce sont des locaux qui étaient en gestion associative sous une gestion de maison des jeunes et de la culture qui est encore présente sur le quartier mais dans de nouveaux locaux. Et donc il a été question en fait de qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Alors leur devenir on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un lieu qui va disparaître dans la programmation du développement urbain du quartier. Pour autant, comme toute programmation du développement urbain, ça prend du temps. Et donc la question qui s'est posée à l'équipe municipale en place, et à moi en particulier avec l'élu de quartier, ça a été comment on met quand même à profit ces locaux, le temps justement de cette latence par rapport à leur futur avenir. Et donc le choix a été fait de les laisser en gestion associative, et de les laisser aussi à l'initiative des associations qui étaient partantes pour le gérer. Et donc, c'est devenu le BAM. Voilà, mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Et bonjour tout le monde. Moi, c'est Funda, Funda Tokac. C'est un mec. Voilà. Je suis artiste visuelle. Je suis autodidacte. J'ai envie de dire ça parce que j'ai fait mes études d'art vraiment tardivement pendant les études, le Covid, les confinements. Et je suis aussi habitante de Clunet. C'est pour ça que j'ai un lien en tant qu'habitant avec BAM. Et aussi, je suis fondatrice d'une association artistique et culturelle qui s'appelle Maximart. Et voilà, on a un lieu, un atelier ici. Et je ne sais pas si je continue l'histoire de Maximart, mais... Oui. on a créé l'association en 2019. Et tout de suite après, c'était le confinement, le Covid. Et après, tout a commencé avec une question. On a dit, si on crée ensemble... est-ce que on peut créer un lien plus fort, un lien social plus fort? Et après, moi j'ai descendu en bas de chez moi et j'ai commencé à créer renouveler une caravane. Et du coup, on a eu le caravane, c'était notre lieu de création. Et on a réalisé plein d'événements autour de cette caravane. Le caravane, il s'appelait Bleu Nomade. Et on a créé vraiment un lien fort avec les habitants. Et jusqu'à qu'on a notre lieu ici. Voilà, je fais une petite entrée et après...
C'est super parce que ça me permet de faire une transition avec Alice qui va vous poser des questions sur la notion et la thématique de la culture au bâtiment à modeler.
Ok.
Ouais, je te laisse la parole. Elle.
Merci.
On a donc décidé de commencer par vous poser des questions à tous les trois sur le thème de la culture, puisque ça a été un peu notre porte d'entrée quand on a découvert les lieux ici. On est arrivé il y a 2 jours avec les étudiants du DU, on a poussé les portes, on est arrivé dans cet endroit qui est un café, et on nous a présenté les activités aussi comme la belote là qu'on voit. On a visité l'atelier où il y a un peu de céramique, la salle de concert. Et ma première question, ce serait comment ces pratiques qui sont très fortement imprégnées par l'éducation populaire, dont on nous a aussi beaucoup parlé, comment cet endroit, avec ce choix assez spécifique de proposer et de valoriser des pratiques culturelles presque plus qu'un lieu de diffusion classique, je dirais, où les gens nous ont dit on se sent à l'aise ici, on se sent libre de faire ce qu'on veut. Quelle particularité ça a pour créer du lien social? Et ma deuxième question, ce serait quels impacts ça a et comment on peut les valoriser sur ce territoire? Et je vous laisse choisir qui veut répondre en premier, que ce soit d'un point de vue de pratique artistique, de la ville ou de la recherche.
Pour moi, en tout cas, moi je suis artiste depuis des années. Je vis avec ça, c'est mon profession. Et par contre, il y a beaucoup de choses que je critique dans le marché d'art et tout. Et du coup, je cherche une alternative. Je cherche, l'art plus près à la vie. Et du coup, mon point de vue à la culture, c'est dans ce point-là qui est différent. Et déjà, qu'est-ce que c'est l'art, en fait? C'est une grande question. Et peut-être qu'on n'a pas de réponse aussi. Et c'est pour ça que je cherche pas, en fait, qu'est-ce que c'est l'art. Pour moi, l'art, c'est la vie elle-même. Du coup, chaque être humain, c'est une artiste pour moi. Et aussi, créer ensemble, ça valorise vraiment le lien. Même on n'a pas envie de faire des liens, quand on commence à créer ensemble, c'est automatique. Du coup, ça crée un lien automatiquement. Et voilà, c'est si on part de là, Maxime Art essaye de faire ça au BAM, ouvre ses portes à tout le monde, sans juger, sans catégoriser. Et du coup, ça, je pense que ça marche. Quand les gens y viennent ici, ils se sentent chez eux.
Oui. Et concrètement, justement, les gens, ils viennent dans l'atelier et ils font ce qu'ils veulent, ou il y a quelqu'un qui leur transmet une pratique?
En fait, on a plusieurs choses. Par exemple, on fait des ateliers les mercredis après-midi art plastique pour les enfants. On n'impose rien presque, mais il y a une cadre, il y a une professionnelle. Du coup, c'est moi. Mais je laisse découvrir. Je les ai dit jamais, en fait, il faut utiliser le pinceau comme ça, il faut prendre la peinture comme ça, ou il faut faire le dessin comme ça. Je laisse expérimenter, trouver toute seule. Après, s'ils ont des questions, bien sûr que je les réponds, je l'apprends, j'ai essayé de transmettre ce que je connais. Mais je laisse expérimenter, et pour moi c'est une meilleure façon d'apprendre et aussi donner de soi, en fait, de ne pas répéter toujours les mêmes choses, de ne pas devenir uniforme.
Et j'aimerais bien aussi savoir si vous avez les moyens de mesurer les impacts sur les personnes qui viennent ici. Et je parle à la fois des bénéficiaires ou des gens qui viennent pratiquer les ateliers, mais ceux aussi qui travaillent ou les bénévoles, à court terme et à moyen terme. Donc peut-être plus pour vous du côté de la recherche ou du côté de la ville. Est-ce qu'on perçoit un impact et de quelle façon?
Je vais répondre à votre question sur les logiques d'impact, mais peut-être revenir à la question initiale que vous posiez tout à l'heure sur le sens que ça a. Et là, en fait, je voudrais quand même préciser qu'il y a une forme de continuité des usages dans ce lieu, même si aujourd'hui, effectivement, du fait qu'il soit habité autrement, il y a de nouveaux usages qui s'y développent. Mais il faut pas oublier que ce lieu était une maison des jeunes et des cultures sur le territoire de Clenay. Et que aujourd'hui, quand et là c'est pour le coup l'adjointe à la vie associative qui vous parle, on est sur un territoire rennais qui est inscrit dans une longue histoire avec ces associations, et en particulier ce qui fait un peu la philosophie de l'action publique municipale ici, c'est ces alliances aussi avec le tissu associatif. C'est quand la ville dit à des associations, on vous laisse gérer les équipements de la ville en proximité. C'est d'abord parce qu'on pense que c'est les habitants eux-mêmes qui doivent gérer et répondre en fait à leurs propres besoins. Donc fondamentalement derrière, si on rejoint ça à la question de la culture ou des cultures, en fait ça rejoint la question des droits culturels. C'est-à-dire que finalement, tout équipement de quartier aujourd'hui à Rennes, en gestion par ses habitants, quel que soit le format associatif, parce que fondamentalement c'est ça, hein, c'est donner un pouvoir d'agir à des habitants pour gérer leur propre équipement, bah finalement il y a la question culturelle qui arrive de fait. Et fondamentalement derrière, alors moi je vais pas parler à la place de mon collègue adjoint à la culture, mais c'est quand même très lié à la politique culturelle qu'on mène à Rennes, qui est fondée justement sur la question des droits culturels. Qu'est-ce que ça veut dire les droits culturels et pourquoi les acteurs de l'éducation populaire en sont finalement les premiers médiateurs de cette question des droits culturels? Bah parce que ça veut dire d'abord qu'on reconnaît à chacun chacune sur un territoire, quel qu'il soit, quelle soit son identité, son histoire, en fait, une culture qui a une existence, qui doit être reconnue et qui doit pouvoir s'exprimer et qui doit participer à la construction du commun ou d'ailleurs de la singularité. Et donc ce travail-là, je pense qu'il est en permanence, je pense, en jeu aujourd'hui dans la gestion associative des équipements de quartier de proximité à Rennes. Et pourquoi au BAM ça se joue peut-être d'autant plus dans sa réalité, parce que là on a été vraiment dans un lâcher prise aussi de qui allait s'en saisir et de des moyens d'action. Et c'est en ça où peut-être on peut parler d'un modèle de lâcher prise du côté institutionnel qu'il s'agit de reconnaître ici, parce que finalement c'est ça qu'on a plutôt construit à travers cette occupation actuelle. C'est une forme d'occupation temporaire fondée sur le laisser-faire. Et finalement, derrière, c'est vraiment une démarche d'éducation populaire assumée pleinement du côté de la ville.
Ouais, et peut-être sur la recherche, justement, une fois qu'on perçoit ces efforts pour laisser faire, comment est-ce qu'on remarque ce que ça a produit sur les humains qui ont bénéficié de cette visibilisation ?
Je pense que parler de mesurer le pouvoir d'agir est pareil. En fait, j'étais pas très à l'aise avec la question de mesurer l'impact sur le moyen à long terme. C'est pour ça, parce que je pense que c'est plus un truc d'évaluation un peu des politiques publiques. C'est pour ça que je t'ai laissé répondre au Rosen. Moi, je suis plus d'une approche un peu sur l'individu. Et donc, la question de mesurer exactement un peu l'impact, etc., ça rentre dedans, mais pour moi c'est vraiment voir comme tu disais, du coup, qu'est-ce que ça fait sur les personnes. En fait, moi c'est juste quand tu parlais Funda, ça m'a fait penser à une anecdote qui, je pense, montre un petit peu tout ça. Ça commence en fait avec un projet de recherche qu'on avait, jeunes exilés en Bretagne, et que du coup on a fait avec COPESCAM. Et une des méthodes de restitution qu'on a voulu, c'était faire un événement ici au BAM sur toute une journée ou toute l'après-midi et soirée, je sais plus. C'était Exil Art. Ouais, exactement. C'était toute la journée, voilà. Et voilà. Du coup, l'idée, c'était en fait de rendre la recherche accessible en prenant en fait ce que le lieu fait le mieux, bah réunir des personnes du quartier, des personnes exilées, etc., autour d'activités qui leur donnent généralement envie, faire de l'art, faire à manger, etc. Et j'en viens un peu au cœur de l'anecdote. C'était, j'y étais avec mon copain qui est arabophone, moi je le suis pas. Et en fait, il y avait une jeune femme libyenne qui arrivait à un atelier artistique qu'on a fait. Et du coup, voilà, elle était un peu perdue, elle savait pas comment faire, quoi faire, etc. Et du coup, mon copain l'a un peu aidé, discuté avec elle, etc. Et c'est assez drôle parce que hier, il était au marché Sainte-Thérèse et il a recroisé cette jeune femme et ils se sont reconnus et elle a juste crié « Ah, Majed !» et alors qu'ils s'étaient juste parlé peut-être 20 minutes, 30 minutes, grand max. Et je pense que d'une certaine manière, sociologiquement, pour moi, je trouve que c'est super intéressant de se dire qu'en fait, là, dans ce moment où, par la recherche et par l'art, on a créé un moment de rencontre qui a en fait peut-être bousculer un petit peu la perception de cette jeune femme qui a rencontré quelqu'un où elle s'est sentie, elle a créé du lien social comme tu disais. Et je trouve que c'est super intéressant en fait de se dire que ce lieu a permis ça, sans mesurer l'impact, parce que là c'est une personne, c'est une anecdote, mais à l'échelle de cette personne, ça a fait quelque chose.
Bon, bah merci beaucoup pour vos réponses autour de cette thématique. Nous allons continuer nos échanges sur la thématique de l'exil et de l'interculturalité. Bonjour à toutes et toutes. Alors, c'est vrai que nous, on a eu la chance hier de travailler, super, avec un petit groupe sur le thème de l'exil et l'interculturalité et d'avoir pu interviewer notamment donc des personnes qui travaillent ce sujet au sein du BAM. Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà dites, que du coup que la question un petit peu de ma collègue autour de la culture a révélé. Donc très vite, on voit bien le lien culture et aussi interculturalité qui se passe ici, notamment avec un public et inséré aussi dans un quartier politique de la ville. On a découvert avec ces interviews des actions autour de la langue, donc de la langue française notamment, avec l'association d'ici d'ailleurs, mais également autour de la langue étrangère, puisqu'on a pu échanger avec Nader, qui propose des cours de langue arabe. Nader, qui est d'origine soudanaise. On a aussi pu échanger avec une chercheuse sur la notion de récit et des lectures spectacles qui ont été réalisées ici sur la santé, le lien santé et exil, et plutôt les difficultés qui peuvent être rencontrées justement par les personnes en exil, pour l'accès aux soins. Et également, ce qu'on peut conclure de tout ça, en fait, c'est qu'on voit bien que ça sert notamment pour s'intégrer, pour lier les peuples et s'enrichir de multiples cultures. Donc, c'est des expériences sources de liens sociaux, on l'a dit déjà, de découvertes mutuelles qui permettent aussi l'émancipation des personnes. Vous l'avez déjà aussi évoqué. On s'est bien rendu compte aussi que cette émancipation, elle vient notamment du fait que la mobilisation de toutes et tous à s'organiser, à co-construire des contenus, à coproduire. Et il a été souligné en fait que le lieu en lui-même, le BAM, était, de par ses espaces, de par sa modularité, de par ses horaires d'ouverture aussi, de son agilité, donc de ses différents équipements. Nous-mêmes, on l'a pratiqué là depuis un jour et demi, on passe d'une salle à l'autre, on peut s'installer dans un petit coin, tirer des canapes, etc. et faire tout ça au milieu d'autres personnes qui agissent sur d'autres sujets. On voit bien que ces espaces permettent tout ça. Donc ma question, elle était la suivante, mais finalement, vous y avez déjà répondu. C'est en quoi ce bâtiment, en fait, il permet justement l'émancipation des personnes et il permet de ce bâtiment qui est bâtiment à modeler, de modeler finalement des nouveaux parcours, des parcours citoyens qui sont collectifs et individuels. Donc, si vous n'avez pas envie de vous répéter, j'ai une autre super question clé pour vous. Merci d'avance pour vos réponses.
Oui, c'est bâtiment à modeler. On continue à modeler ensemble. Et comme c'est ouverte, comme c'est accueillante, en fait, les gens, ils ont pas des difficultés à venir, à dire leurs idées, à partager leurs envies et inviter aussi pour faire ensemble. Et je pense que c'est là qu'il commence. Et c'est pour ça que ça m'a plu, en fait, BAM. Parce que nous aussi, en tant que Maximart, c'était notre idée, en fait. On voulait pas intégrer les gens. On voulait juste accueillir comme ils sont, en fait, avec leur savoir-faire, avec leur culture à eux, avec leur habitude à eux. Juste, il faut accueillir et partager. Et si on part de ça, je pense que ça marche bien. Voilà.
Rosaine.
Oui, peut-être sans répéter, mais peut-être en étant un peu dans le prolongement de ce que je pouvais dire tout à l'heure, peut-être la forme aussi temporaire permet, je pense, de créer, plutôt de faire tomber des formes de barrières et que ça crée un espace de liberté et d'autorisation, sans doute, pour des personnes qui sur d'autres endroits, d'autres espaces, n'oserait pas être autant dans la prise d'initiative. Je dis pas forcément n'oserait pas passer la porte parce que je trouve ça trop enfermant et je pense qu'on a quand même globalement des équipements, des professionnels qui travaillent justement globalement sur le territoire la question de l'accès de toutes et tous à ce qui est proposé dans la ville, mais peut-être cet espace-là, il crée, de par sa forme, et qui est en fait un peu difforme, et ben crée une forme d'autorisation à l'initiative. Voilà, le fait, ça crée finalement concrètement le droit d'agir avant d'être dans le pouvoir d'agir. Et finalement, ça, c'est un vrai enjeu, je pense, sur la question des espaces aujourd'hui d'innovation sociale.
Ouais, je vais juste, en fait, c'est des points qui, je pense, relient un peu tout ce qui avait été dit. Et c'est déjà pour moi de souligner que, ouais, dans ta question, tu disais comment intégrer les gens. Et je pense que pour moi, comme tu dis, Founa, il faut peut-être pas se préoccuper d'intégrer déjà, mais d'accueillir assez dignement et convenablement avant même d'essayer d'intégrer les personnes et du coup donner du pouvoir d'agir aux personnes. Bah, comme vous disiez toutes les deux, que par quoi ça passe, c'est avoir un lieu de rencontre, de laisser agir et d'initiative, et où là on permet vraiment aux gens d'être ensemble, de leur faire comprendre qu'elles peuvent faire, que ces personnes-là peuvent faire ce qu'elles veulent de leur propre initiative. Et là, vraiment, on a une potentialité d'avoir du pouvoir d'agir chez les personnes.
Merci. Du coup, ça me fait rebondir sur un sujet. On a parlé d'habitude, du coup. D'habitude, de nouvelles habitudes, d'accueillir, etc. On a parlé aussi de lieux temporaires, de lieux éphémères. Et j'ai souvenir dans la quelques cultures que j'ai sur le sujet de l'exil ou des migrants, c'est souvent difficile justement pour ces personnes qui sont souvent sur des situations temporaires, éphémères, que quand si on pense tout simplement à l'hébergement et donc l'hébergement d'urgence, il y a des politiques qui font que les gens peuvent jamais vraiment s'installer plus de 3 jours. Donc elles ont fini par arrêter de se projeter aussi et de se dire combien de temps je peux rester là et je vis au jour le jour, etc. Ce qui me met en lien sur le fait que on le sait, donc c'est un lieu temporaire. De ce que j'ai entendu, donc c'était la convention était encore repoussée d'une année, mais finalement fin 2025 le lieu va devoir laisser place à un chantier. Comment les associations qui sont inscrites ici, elles arrivent à se projeter du coup sur l'avenir? Comment vous qui êtes plus sur la thématique de l'engagement et des exilés, comment on arrive à s'engager justement sur quelque chose qui disparaît peut-être dans un an ou deux, même si là c'était quand même un temps bien long, et comment la ville va pouvoir anticiper un petit peu ça et proposer un autre lieu à tout ça? Merci.
Dès le départ, le contrat avec les acteurs hébergés était très clair et il n'y avait pas de fausses idées sur ce que ça allait devenir, et d'ailleurs sa forme aujourd'hui est liée au fait que c'est un projet éphémère. Ça ne veut pas dire que c'est pas d'autres projets éphémères qui doivent émerger dans une ville. Quand une ville grandit, quand une ville évolue, en fait, elle crée un certain nombre d'interstices où des possibles se créent. Et donc, je pense que derrière ça, il y a une pratique de l'action politique qu'il faut... qu'on expérimente ici, qu'on a expérimenté ailleurs. On a d'autres endroits où les choses, enfin tu le disais tout à l'heure, on a le bois Perrin, qui est un lieu aussi où avec d'autres formes, on est aussi sur des occupations temporaires. L'hôtel Pasteur aujourd'hui, dans ce qu'il est aujourd'hui, est fondé sur donc notre hôtel à projet qui est en plein centre-ville, a fait l'objet aussi d'occupations temporaires. Donc on voit que en termes de mode de faire, localement, on a créé de nouvelles manières de faire bouger la ville et de faire que nos locaux communs, en fait, soient saisis dans une temporalité. Et donc ça, je pense que si, en tout cas, avec l'équipe d'aujourd'hui, on peut faire une promesse, c'est que on est ouvert à ces initiatives-là et que si d'autres opportunités sont faites, il y aura d'autres possibles dans les terrains qui se libèrent, les bâtiments qui se libèrent. Pour autant, concernant cette parcelle, on sait qu'elle fera l'objet d'un programme immobilier et qui s'ouvrira. Alors, vous êtes c'est fin 25. Bon, on sait aussi que les temps du déploiement de la ville, c'est parfois des temps plus longs. Ce que juste je peux dire, c'est que ce qui s'est joué ici, et ça aussi, ça fait partie un peu du contrat avec les associations qui sont hébergées, c'est qu'on repère aussi des nouveaux besoins, des habitants qui s'engagent. Et donc, à partir de là, ça, ça existe. Voilà, c'est ça qui existe, en fait. Après, les murs, c'est une autre chose. Mais la question, c'est, en fait, qu'est-ce que ça a créé comme dynamique habitante et participante dans cette partie-là du quartier. Et sans doute que nous, notre vigilance, ça va être, ben non, il ne s'agit pas demain de se dire, allez, c'est fini. Et puis en fait, c'est un promoteur qui monte ses immeubles sans qu'on tienne compte de ce qui s'est joué ici sur le temps de l'expérimentation. Et donc, il a toujours été pensé aussi dans ce programme qu'il y aurait des locaux associatifs. Et donc, on voit bien que les expérimentations qui sont faites ici offrent un espace de réflexion qui nous dit on s'appuiera sur les expériences du BAM, sans doute aussi pour réfléchir demain ce que seront ces fameux locaux qui sont pensés aussi dans ce programme. Mais ça, c'est une approche qu'on a à peu près, un peu à chaque fois qu'on essaie de monter du nouveau à Rennes, c'est de partir aussi de ce que les habitants nous disent par leurs usages. Et pour le coup, d'inventer la ville aussi avec les habitants eux-mêmes et ce qu'ils ont comme pratique collective en particulier. Parce que s'il y a bien un sujet qui est fondamental sur un quartier prioritaire comme le quartier de Clenay, c'est bien la question du lien social et du faire ensemble et de la capacité d'agir pour le collectif à cet endroit.
Alors, merci pour votre réponse. On voit la passion de votre discours. Et du coup, pour faire suite et finir sur et un petit peu ouvrir, peut-être aussi en dehors du bâtiment à modeler, Marc va parler de la thématique de l'alimentation et vous poser des questions à ce sujet.
Bonjour. Écoutez, voilà, effectivement, la question de l'alimentation, ça a été une des thématiques qui a été abordée hier. On a été très heureux de rencontrer plusieurs acteurs de la distribution alimentaire, dont des habitants du quartier de Clenay, qui évidemment interviennent en lien avec le BAM. De façon à peu près commune, il y a eu un constat qui a été fait sur le fait que la demande ne cesse de s'accroître. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans le besoin, dans la précarité alimentaire. Donc ça, c'est partagé par l'ensemble des gens qu'on a pu rencontrer et peu importe les associations ou les initiatives qu'elles portaient. Et on se dit qu'aujourd'hui, on se pose quand même la question on s'interroge sur le fait que la réponse à la question alimentaire aujourd'hui, elle est très opérationnelle. Elle demande énormément d'organisation, des coûts humains très forts, etc. Néanmoins, à la suite de un peu des limites et des perspectives que les gens pouvaient nous donner, il y a cette idée de dire que peut-être que la question alimentaire ne s'intéresse pas à la question politique de la question alimentaire. Alors quand on dit ça, ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'opérationnel et qu'on oublie ce que peut apporter la distribution alimentaire, etc., dans son ensemble. Et donc, on a une question qui se pose un peu, qui s'est posée, c'est comment envisager, à travers des structures telles que le BAM, mais d'autres structures, comment on passe de la position de consommateur à la position de consomme-acteur. Donc, si vous avez une idée, en tout cas, on est évidemment preneur, il n'y a peut-être pas de réponse dans l'absolu complètement fermée, mais nous, on a eu pas mal de pistes de réflexion et en tant que collectivité locale, que vous avez évidemment conscience de cette précarité alimentaire, on n'a pas de doute, mais peut-être d'apporter aussi des points de développement sur cette action.
Je pense que je vais essayer de répondre à la question avec une autre question qui peut-être peut du coup ouvrir le débat de personnes, sauf si vous voulez répondre à la question d'origine. Mais en fait, moi, ce que je me suis dit quand tu posais la question là, c'est en lien avec la précarité, comment est-ce qu'on passe de la position de consommateur à celle de consommateur? Mais comment on fait quand on n'est même pas consommateur dès le départ? On peut pas se demander est-ce que je peux être consomme-acteur parce qu'on n'est déjà même pas acteur de sa propre consommation quand on est dans la précarité, qu'on va aux distributions alimentaires et qu'on dépend du coup de ce qu'on nous offre. Du coup, voilà, c'est peut-être une piste d'ouverture.
Alors, la question qui est derrière, si j'ai bien compris, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ça dépend à quel problème on veut répondre. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a des personnes qui sont dans la précarité alimentaire et on a des acteurs associatifs. Là, je vais parler du territoire rennais, qui œuvre quotidiennement pour essayer de répondre à ce premier besoin, qui est le besoin vital d'avoir de quoi se nourrir et manger. Là où j'entends aussi votre question, c'est que aujourd'hui, on est sur une question politique de fond. C'est quoi cette alimentation ? Et là, on est sur la question en fait du modèle économique aujourd'hui dans lequel on est, qui crée de la précarité alimentaire et qui crée aussi une insécurité alimentaire par rapport à la nature même de ce qui fait la nourriture des uns et des autres et qui est un facteur énorme d'inégalité sociale aujourd'hui. Et donc derrière ça, il y a toute la question effectivement de l'accès à une alimentation durable pour toutes et tous, quelle que soit sa condition de vie. Et donc ça va se poser aussi inévitablement finalement à ceux qui aujourd'hui œuvrent sur des logiques de distribution alimentaire. Mais c'est une vraie tension, enfin, on ne va pas se mentir. Et d'ailleurs, je ne suis vraiment pas la meilleure positionnée pour en parler. Moi, je préférais que ce soit des acteurs associatifs qui abordent ces questions-là. Donc, s'il y en a là, je préférerais que ce soit eux qui prennent la parole. Mais par contre, on a une vraie question de fond aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on distribue aujourd'hui aux personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Et là, je vais quand même renvoyer aux politiques rapidement. Parce que, en fait, ça, c'est la question des circuits. Et c'est la question de comment on fait aussi de l'économie locale, même sur la question de l'aide alimentaire. Et ça veut dire qui donne, quels sont les circuits de solidarité. Et là, je pense que pour le coup, ça, c'est une responsabilité de collectivité territoriale, pas que, évidemment. Mais nous, en tant que collectivité territoriale, quand on développe un plan d'alimentation durable sur un territoire, on pense aussi au circuit d'alimentation de ce qui va dans l'aide alimentaire. Et sachez que c'est aujourd'hui au travail sur ce territoire.
Bah moi je suis pas vraiment le spécialiste de cette question, mais et juste c'est une question qu'on a abordée quand même en tant que Maximart. Quand j'étais plus jeune, quand on parlait de précarité alimentaire, je croyais qu'en fait il y avait pas assez mangé dans le monde. Il y avait pas assez de plantes, il y avait pas assez de, je sais pas vraiment. Je croyais vraiment ça. Et j'étais très triste, en fait. Et je croyais que on va perdre aussi ce qu'ils ont. Ils vont perdre aussi à un moment donné. Bah, il y aura plus rien du tout, dans le monde. Mais après avoir l'âge, j'ai vu qu'en fait, c'est pas ça. Parce que moi, je suis d'origine turque. Je vivais au sud. Il y avait plein de orangiers. Et le temps de orange, en fait, je voyais par terre plein d'oranges, mais ils sont abandonnés en fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'en fait, il y a assez mangé dans ce monde-là. C'est juste, il y a pas en fait, tout le monde n'a pas l'accès à la même chose. Peut-être il faut poser la question dans ce sens-là. Voilà. Moi, et aussi nous, on a essayé de faire ça, et du coup, on a réalisé un projet qui s'appelle Sous-partentiel, on a dit qu'on va cuisiner des soupes ensemble de plusieurs recettes de chaque différents pays, différentes cultures, et on va manger ensemble. Le Covid, il nous a pas permis de manger ensemble au début, mais on a distribué cette soupe et on a posé beaucoup de questions autour de éléments alimentaires en fait. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire.
Effectivement, c'était juste un peu le sens de ma question qui était assez généraliste, mais c'était bien pour faire comprendre aussi qu'il y a une possibilité au-delà de l'urgence de la distribution, que des lieux comme le BAM peuvent effectivement être des endroits de sensibilisation également de toutes ces problématiques-là, effectivement de tout ce que vous avez décrit. Mais c'était une des grandes questions qui a traversé l'ensemble des personnes qui font une distribution alimentaire. Mais c'était très intéressant de voir que localement il y avait un pouvoir d'agir aussi.
On va devoir finir cette intéressante discussion. On remercie vraiment beaucoup nos invités pour vos interventions très inspirantes. Merci au bâtiment ou à Modelé de nous avoir accueillis. Merci à tous, en tout cas. Merci aux joueurs de Belote pour votre active participation sonore. C'était super. Du coup, voilà, vous pourrez retrouver l'émission sur R22. Il y aura des capsules sonores à entendre autour de ces trois thématiques de ce qui a pu se passer hier sur le site de R22 et le SoundCloud du DU, espace commun. Merci à tout le monde.
R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.